Béni soit Dieu, gloire à son nom. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de partager sur cette intimité que nous devons avoir avec notre Père. Comme je disais en introduction, le salut, c'est un retour à Dieu. Parce qu'à cause du péché, de la désobéissance, l'humanité entière qui était dans Adam, le premier homme, a péché contre Dieu et héritière de ce péché qui fait que l'humanité sans Dieu, elle est éloignée de Dieu. Et donc Dieu a voulu envoyer son Fils mourir sur le bois de la croix pour réconcilier l'humanité avec lui. Le salut, c'est un retour à Dieu. Et donc, cette intimité avec le Père Céleste doit être quelque chose que nous devions cultiver, doit être quelque chose que nous devons avoir à cœur, parce que cela est très important pour Dieu d'abord, mais aussi pour chacun d'entre nous, parce que ce que Dieu désire, comme n'importe lequel des parents ici, vous savez, c'est d'avoir toujours ses enfants. Hein, vous êtes d'accord, les parents ? Même quand ils grandissent, vous voulez toujours les avoir auprès de vous. Oui, parce qu'on aime ses enfants et je crois que cette pensée, cette façon de faire, ce désir, cette volonté de vouloir garder ses enfants tout le temps, ben, elle ne vient pas de l'être humain lui-même d'abord. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Dieu a voulu nous transférer, bien évidemment, ce désir de lien avec les autres. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'avoir des relations sociales avec les autres. Et de plus en plus, d'études montrent aujourd'hui que lorsque les personnes n'ont plus de connexion avec d'autres personnes, lorsque les personnes se sentent isolées, elles s'étiolent petit à petit et à petit feu, elles vont vers la mort. Parce que nous sommes des êtres de relation. Dieu a voulu nous créer comme ça parce que lui-même est au départ un être de relation. Donc, vous voyez, donc, nous avons besoin de cette présence de Dieu, de cette intimité avec Dieu, parce que c'est dans cette intimité que nous pouvons puiser tout ce dont nous avons besoin, que nous pouvons puiser les forces qui peuvent nous manquer à un moment de notre vie, parce que cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, parce que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et si nous avons cette soif de Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe toujours dans notre vie. Et cette intimité, pour aller dans cette intimité de Dieu, bien évidemment, nous avons besoin de développer ce désir ardent, cette soif de Dieu. D'où le titre de mon message ce matin, « Être assoiffé de Dieu ». Être assoiffé de Dieu, donner quelques petites définitions du mot « soif ». Voilà, j'ai pris ça sur Internet. Hein. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on ne regarde plus les dictionnaires. Je ne sais pas si Hachette fonctionne toujours bien, Larousse. Et je crois qu'ils doivent avoir un petit déficit au niveau de la clientèle. Hein. Parce que maintenant, vous tapez Google et vous avez un peu ce que vous avez envie. Mais bon, il faut quand même vérifier de temps en temps. Mais le mot « soif » est défini comme étant une sensation que produit le besoin de boire. Et ça a un mot qui a un deuxième sens, qui peut être traduit par un désir ardent, impatient, passionné de quelque chose ou de quelqu'un. Et dans le domaine médical, le mot soif est défini comme étant un réflexe normal qui permet de signaler à l'organisme qu'il manque d'eau. Un peu de vin de temps en temps. Donc, c'est une sensation. La soif, ce n'est pas un désir. La soif, c'est la conséquence d'un besoin. Un besoin physiologique qui est lié à la déshydratation. Lorsque, vous savez, nul besoin de vous apprendre ce matin, vous savez que le corps humain est constitué entre 60 et 70% d'eau. Donc, le corps a besoin de cette eau pour fonctionner. parce que les cellules utilisent cette eau-là pour pouvoir faire leur travail. Et lorsque les cellules manquent d'eau, en ce moment-là, elles envoient un signal à la caboche. Oh, monsieur cerveau, nous on est dépourvu d'eau, on a besoin de liquide. Et là, le cerveau va faire naître justement cette sensation qu'on a, la soif, l'envie de boire. Et là, on cherche à trouver l'oasis quelque part, à trouver une bouteille d'eau, à trouver, je ne sais pas, une fontaine, parce que le corps nous dit qu'il a besoin d'eau. Ça, c'est lorsque nous sommes en présence d'une déshydratation normale. Mais nous savons aussi qu'il peut y avoir des déshydratations qui sont, entre guillemets, anormales, qui sont liées à des situations pathologiques. En temps de canicule, par exemple, on demande à nos aînés de boire. Vous savez pourquoi? Parce que plus on avance dans l'âge, et moins, justement, dedans, là, il ne reçoit plus le message comme quoi on a soif. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les stimuler, il faut leur demander de boire, il faut qu'ils utilisent les brumisateurs pour pouvoir justement se rafraîchir. On peut par exemple souffrir d'un diabète, on a besoin de boire tout le temps. Là c'est une situation pathologique. Ce n'est pas encore la période, on peut avoir une gastro. Que je ne souhaite à personne cette année. À moi-même non plus. Il vaut mieux passer l'hiver sans gastro. Donc, il y a des situations qui peuvent nous amener à boire plus que d'habitude. Et donc, la soif, c'est quelque chose qui naît d'un besoin. Et il est important d'abord, comme je viens de dire, le cerveau, du moins à qui les cellules envoient le message, qui identifie le besoin, lui va maintenant alerter l'organisme pour dire, il y a un besoin d'eau, et bien voilà, on commence par avoir la bouche qui sèche, la gorge qui a besoin de se rafraîchir, et là on va boire, et quand on boit, et souvent la sensation c'est, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Il y en a qui ont été au Maroc cette année. Je peux vous dire que pendant leur séjour au Maroc, ils ont bu plus qu'ils ne boivent d'habitude ici. Parce qu'il fait plus chaud au Maroc. Et donc l'organisme fait savoir qu'il fait chaud, il faut s'hydrater parce qu'on perd de l'eau lorsqu'il fait beaucoup chaud. Lorsqu'il fait plus chaud, pardon. On perd de l'eau et donc l'organisme a besoin de se ressourcer en eau. Et donc lorsqu'on parle d'être assoiffé de Dieu, ben, il est d'abord question avant tout de connaître comment est-ce que la soif de Dieu naît dans notre cœur. Cela ne relève pas d'abord de la volonté humaine. Ni vous, ni moi n'avons un jour décidé comme ça en disant, ben voici, maintenant je vais avoir soif de Dieu. Non, la soif de Dieu naît de la rencontre entre un homme ou une femme avec cette personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs dans ces termes que Jésus va lancer un appel. C'est ce que nous lisons, bien sûr, dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, d'elle, comme l'a dit l'Écriture. Jésus invite, il dit, si quelqu'un a soif, il est en train de dire quoi? Si quelqu'un détecte chez lui, chez elle, le besoin de Dieu, le besoin qu'il a vraisemblablement besoin de Dieu pour sa vie, en ce moment-là, je t'invite à venir à moi parce que c'est moi, du moins Christ, que Dieu a envoyé sur la terre afin que lui puisse désaltérer la soif de tous ceux, de toutes celles qui viendraient à lui. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs dans le chapitre 4 du même évangile à une femme dont le nom n'est pas donné ici, qui était en train de se dessécher dans sa vie, en particulier dans sa vie sentimentale, celle qu'on appelle la femme samaritaine dans la Bible. Cette femme avait connu un chaos sentimental. Elle allait d'homme en homme. Je ne sais pas, aujourd'hui, on l'aurait peut-être baptisée de veuve noire. Je ne sais pas si elle avait été veuve et puis elle avait décidé de plus jamais. Voilà, elle allait d'homme en homme comme ça. Elle fait la rencontre de Jésus. Et dans cette rencontre avec Jésus, c'est une rencontre qui se passe au puits de Jacob à Sichar. Et cette femme est venue à midi pour puiser son eau. Chose qui est un peu bizarre, parce que dans cette culture en général, les femmes, elles venaient, soit deux par deux minimum, en cohue, pour venir puiser de l'eau. Et là, elle va arriver toute seule. Vraisemblablement, dans la société où elle vivait à Sichar, elle n'avait pas une bonne réputation. Et là, au puits de Jacob, Jésus est fatigué, il a soif, il a un besoin physiologique. Son corps lui dit « Tu as marché ». Pendant longtemps, j'ai besoin de boire pour me rafraîchir, pour me réhydrater. Et là, cette femme arrive avec, Jésus entame un dialogue avec elle, lui demande à boire. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, alors que cette femme lui parle de la religion, cette femme lui parle des relations qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs, qui n'ont pas de relations entre eux, qui ne se kiffent pas. Jésus ne va pas rentrer dans son terrain de jeu, non, Jésus va l'amener à la vie. Jésus va lui dire, si tu savais quel est le don de Dieu qui est là devant toi, tu lui demanderais toi-même à boire et il te donnerait de l'eau vive qui te désalterait pour l'éternité. Jésus dit ça à cette femme et cette femme dit, mais super! Si je ne peux plus venir puiser de l'eau parce que j'aurais bu pour toute ma vie, super, Jésus, dis-moi où je peux trouver de cette eau. Donne-la-moi, comme ça je ne viendrai plus jamais au puits de Jacob. Mais Jésus ne lui parle pas de l'eau naturelle. Nous aurons toujours besoin de boire. Tout comme nous avons besoin de boire tous les jours, tout comme les médecins nous recommandent de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, nous avons besoin d'être assoiffés de Dieu. Nous avons besoin de boire de Dieu. Nous avons besoin de boire cette eau vive. Quand on regarde de plus près les Écritures, la femme samaritaine est la seule personne, au risque de me tromper, à qui Jésus a clairement dit qu'il était le Messie. Alors que Jésus lui dit ces choses à cette femme, elle lui répond, « Ah ben oui, mais nous, on nous a dit que le Messie, il va arriver, et quand il va arriver, il va nous annoncer, il va nous apprendre toutes choses. » Jésus lui dit, « Eh bien, voici le problème de l'être humain. » Même quand le Messie est en face de lui, en face d'elle, il ne le reconnaît pas, elle ne le reconnaît pas. Elle cherche ailleurs. Alors que le Messie était là, en face de cette femme, Jésus lui dit, je vais te donner de l'eau vive, l'eau qui va te désaltérer pour l'éternité, c'est-à-dire cette vie que lui seul peut donner. C'est pour cette raison qu'il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, si tu détectes mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es peut-être parmi nous ce matin, si tu détectes le besoin de Dieu en toi, Jésus te dit qu'il est la bonne personne, il est la citerne dont tu as besoin, il est l'oasis dont tu as besoin, il est la source dont tu as besoin pour pouvoir te désaltérer. Cette soif, elle naît de cette rencontre qu'on fait avec Jésus. Parce que lorsque nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas connaître, justement, nous ne pouvons pas détecter chez nous ce besoin. C'est seulement lorsque nous avons cette rencontre pour la première fois ou pour les premières fois avec Jésus que nous devenons conscients de ce dont nous avons besoin, que nous devenons conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien, que nous devenons conscients que nous avons besoin de Dieu pour tout. C'est pourquoi être assoiffé de Dieu, c'est d'abord connaître comment cette soif naît en nous. Être assoiffé de Dieu, c'est aussi être passionné de Dieu et de son œuvre. Il y a un passage dans l'Épître aux Éphésiens où l'apôtre Paul dit, il précise les choses parce qu'il n'a pas envie que les gens se disent que c'est parce qu'ils font des choses que Dieu va approuver et va ainsi les sauver. Il dit non, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le salut que vous avez, c'est d'abord par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, que personne ne se vante, que personne ne fasse le dos rond, en disant, oh, mais tu sais moi, hein. Dieu n'a pas de choix que de me sauver. après tout ce que j'ai fait là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque nous lisons ce texte, tout de suite, ça fait tilt dans notre esprit, cette histoire du publicain et du pharisien qui vont au temple pour prier. Lorsqu'ils arrivent au temple, il y en a un qui reconnaît sa misère, il y en a un qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu, il y en a un autre, il est tout suffisant. Il arrive et puis il dit à Dieu tout ce qu'il fait, le pharisien. Il n'a rien rajouté, il n'a rien enlevé. Tout ce que le pharisien a dit était vrai, il le faisait. C'était sa semaine spirituelle, celle qu'il avait décrite devant Dieu. Mais le publicain qui, lui, se disait ne pas être digne même de pouvoir s'approcher de Dieu, qu'il avait juste besoin que Dieu lui fasse grâce. Lorsque le conseil divin a délibéré par rapport aux deux prières, le pharisien qui pourtant a dit tout ce qu'il faisait, véritablement, a eu 0 sur 20. Et le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, lui, qui n'avait pas bonne presse à l'époque. Hein. Ah oui, parce qu'il ne collectait pas seulement ce qu'il devait collecter en général. Hein. Mais lui, il vient devant Dieu et dit, Seigneur, je ne suis même pas digne. Et là, le conseil divin dit, c'est lui, 21 sur 20. C'est étonnant. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs. Le pharisien est venu exhiber toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait, la semaine spirituelle qu'il a. Je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, je jeûne, je donne ma dîme. Super, le pharisien. Mais Dieu dit non, ce n'est pas cela qui te fait approcher de moi. Si tu n'es pas conscient que ce qui fait que tu t'approches de moi, c'est parce que mon fils est mort, c'est la grâce. C'est la grâce qui te fait approcher de moi. Ce publicain connaissait les choses avant la grâce. Il savait qu'il n'était pas digne d'approcher Dieu. Mais parce qu'il était dans cette attitude où il savait que lui a plus besoin de Dieu qu'il n'a besoin d'étaler tout ce qu'il fait dans la semaine, Dieu va lui dire, écoute, toi tu as 20 sur 20 ou 21 comme je l'ai dit déjà, et l'autre il a 0. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse plus tard que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, pas par nos œuvres. Et il dira, nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Mais pourquoi nous a-t-il sauvés? Dieu nous a sauvés pour nous faire participants de sa nature. Mais participants de sa nature, pourquoi? Mais pour participer à son œuvre, frères et sœurs. On ne peut pas être assoiffé de Dieu sans être passionné de l'œuvre de Dieu. C'est impossible, frères et sœurs. On ne peut pas être assoiffé de Dieu sans aimer ce que Dieu aime. On ne peut pas être assoiffé de Dieu sans s'intéresser à ce qui est le centre ou ce qui représente les centres d'intérêt de Dieu. On ne peut pas être assoiffé de Dieu sans pour autant regarder dans la même direction que Dieu. C'est impossible. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église est sur la terre l'agence de promotion du royaume de Dieu. Nous sommes là, frères et sœurs, pour faire la promotion du royaume. Quand on est assoiffé de Dieu, quand on a soif de Dieu, on a soif de faire la promotion du royaume. On a soif de faire connaître ce Dieu qui est bon. On a soif de dire à notre voisin que Dieu est bon, il t'aime, même si toi tu ne le connais pas. On a soif de le dire à notre collègue, on a soif de le dire aux membres de notre famille. On a soif, pourquoi? Parce que nous savons que nous aussi nous étions loin de Dieu et que cette soif est née de la relation que nous avons avec lui, parce que lui nous a appelés. En disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous ne pouvons pas honnir l'Église, frères et sœurs. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu pendant plusieurs mois, au début de cette année. C'est Christ qui bâtit son Église. Tu ne peux pas me dire que tu as soifé de Dieu si tu n'aimes pas l'Église. C'est impossible. C'est pas possible. Si tu aimes Dieu, tu aimes l'Église. Si tu as soifé de Dieu, tu as soifé de l'Église. Tu as soifé que l'Église prospère à tous égards. Tu as soifé que les frères et les sœurs de l'Église réussissent dans leur vie. C'est cela l'Église. C'est ça être assoiffé de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est ni plus ni moins que vous et moi sur la terre. On ne peut pas, dans le secret, faire des choses opposées, frères et sœurs, à la vision de l'Église. La Bible nous dit clairement dans le livre des Proverbes que celui qui cherche à se mettre à l'écart, il fait quoi? Il cherche son propre plaisir, il cherche ce qui lui plaît. Beaucoup ont des difficultés. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que quand Dieu a donné la vision à Moïse, est-ce que vous croyez que tout le peuple, les gens disent environ 2 millions de peuples, est-ce que vous croyez que tout le monde était d'accord avec cela? La preuve, c'est que ça s'est ressenti, ça s'est vu dans le désert. Ils n'étaient pas d'accord, mais pourtant c'était la vision de Dieu. Ils n'étaient pas d'accord. Le but de Dieu n'est pas de nous mettre d'accord. Le but de Dieu est de nous dire, je donne quelque chose, vous y allez, c'est comme ça. Hein, ça, c'est difficile pour nous, dans une société où nous avons besoin de donner notre opinion, nous avons besoin de dire, moi, ce que je pense. Dieu n'a rien à faire de ce que nous pensons. C'est pour cette raison qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ce qui intéresse Dieu, c'est que toi et moi, nous fléchissions quand il nous dit, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Ce ne sont pas nos pensées. Moi, je peux penser que quand je suis assis là, je suis mal à l'aise, mais c'est mon problème. Si je ne peux pas m'asseoir, je me lève pour louer Dieu. Ça, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Frères et sœurs, quand est-ce que nous allons montrer de la maturité dans notre relation avec Dieu? Si nous sommes assoiffés de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons qu'aimer ce monde qui est en train de périr. Parce que Dieu a tellement aimé ce monde. Dieu aime ce monde. C'est pour cette raison. Nous, si nous étions de ce monde, l'apôtre Paul nous le dit, nous étions de ce monde. C'est dans ce monde que Dieu est allé nous chercher. C'est dans ce monde que Dieu est allé nous repêcher. C'est dans ce monde que Dieu est allé nous arracher. Alors, frères et sœurs, n'oublions pas que nous y avons fait partie. Et si nous oublions cela, c'est que notre soif de Dieu n'est plus. Quand on est assoiffé de Dieu, on est assoiffé, on est passionné des choses qui passionnent le cœur de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. Dieu ne nous appelle pas à la perfection divine, il nous appelle à la maturité. Être des hommes et des femmes matures, qui marchent avec le Seigneur, non pas selon leur sens, mais selon la foi. La foi que Dieu a impartie en chacun d'entre nous, pour pouvoir lui faire confiance en tout temps. Donc, être assoiffé de Dieu, c'est être passionné de Dieu et de son œuvre, c'est aimer Dieu. Quand on aime Dieu, frères et sœurs, quand on aime quelqu'un, on aime être avec la personne. Quand on aime quelqu'un, on ferme. Vous savez, je lisais un jour un livre de John Bevere que vous connaissez, certains d'entre vous. Je ne sais plus si c'est dans son livre « L'offense, porte d'entrée du diable », je ne sais plus si c'est dans un autre. Et il disait ceci, il disait que lui, quand il était fiancé, par exemple, quand il était fiancé, il était capable d'aller n'importe où, à n'importe quelle heure, pour trouver ce que sa fiancée lui demandait. Il disait, même si sa fiancée pouvait lui téléphoner à 3 heures du matin pour qu'il lui trouve une glace quelque part, il irait frapper à n'importe quel endroit où il pouvait trouver une glace. Parce qu'il aimait sa fiancée. Frères et sœurs, nous devons être passionnés de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cette raison... Vous et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous venons de voir, oui ou non? Nous sommes son ouvrage. Alors, si tu aimes Dieu et que tu ne m'aimes pas, là, il y a un souci. Ah, je sais que je ne suis pas facile à aimer, mais tu dois m'aimer, mon frère, ma soeur. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Je ne suis pas facile, mais tu dois m'aimer. Eh oui. Et moi aussi, je dois vous aimer. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on a envie, non. C'est ça, être passionné, être assoiffé. On regarde les gens comme Dieu les regarde. On aborde les gens comme Jésus. Regardez comment Jésus a abordé les gens. Regardez l'attitude de Jésus. Regardez le comportement, le tempérament, le caractère de Jésus. Partout où il allait, les gens disaient du bien de lui. Même ses ennemis, même lorsqu'il est crucifié, il y en a un qui regarde qui dit non. Parce qu'un homme, quand il est en train d'agoniser comme ça, mais il fait ressortir toute sa rancœur, toute sa colère, il la déverse sur tous ses bourreaux, mais lui, il est sur le bois de la croix, il est en train de mourir, les gens se moquent de lui. Mais il a quand même le courage et la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, mais ce n'est pas possible. À la fin, il y en a un qui dit, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Ce n'est pas possible, parce que les hommes, en réalité, ils ont envie de se défendre. Voyez, frères et sœurs, être assoiffé de Dieu, c'est aussi identifier son manque de soif et les causes de ce manque de soif. Et dans cette partie, qui est un peu la plus longue de mon intervention ce matin, j'aimerais que l'on puisse voir, non pas avec une liste exhaustive, mais quelques situations. Bien évidemment, en illustrant cela avec des cas dans la parole de Dieu, quelques situations qui peuvent normalement nous empêcher ou nous, bien évidemment, empêcher notre soif de Dieu d'être là en action, d'être toujours en permanence assoiffé de ce Dieu, de ce Sauveur, de celui qui nous a aimés. Et c'est vrai qu'une des premières causes qui peut vraiment engendrer, ou du moins ce manque de Dieu, j'en ai parlé, ce manque de soif de Dieu, c'est quand on n'est pas encore engagé avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, il y a peut-être un ami parmi nous qui nous visite peut-être depuis un moment ou qui est venu aujourd'hui seulement à l'occasion de ce culte. Mais il y a aussi une possibilité pour toi. Pour toi, bien évidemment, de connaître cela. De connaître cette soif, cette passion de Dieu. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, comme il le dit dans le livre du prophète Ésaïe, il dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Donc même si toi tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore engagé, Dieu est prêt à t'accueillir aussi, même ce matin. Il est prêt à t'ouvrir son cœur. Le Fils de Dieu est là aussi pour toi. Et le Fils de Dieu, cet appel, il te le lance aussi en te disant, si tu as soif, si tu identifies ce matin, au travers de ces petits mots qui sont en train d'être, bien évidemment, donnés, si tu t'identifies en disant, ben oui, mais j'ai besoin de Dieu, Jésus te dit, ben oui, il est la bonne personne, lui, pour t'accueillir et pour te désaltérer, pour que tu rentres dans cette relation aussi avec lui. Cette relation éternelle, cette relation permanente. C'est pour cette raison que Dieu dit, le méchant ici, ce n'est pas celui qui fait les méchancetés, comme on a l'habitude de dire. Dans la Bible, le méchant, c'est celui qui vit sans Dieu, qui vit loin de Dieu. Donc, si tu ne connais pas encore Dieu, Dieu t'attend aussi, Dieu t'appelle aussi ce matin. Et il te dit, il y a une possibilité pour toi aussi d'être bien évidemment accueilli par son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons vu dans le texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et l'apôtre Paul dira par ailleurs aux chrétiens de Corinthe, il faut que vous sachiez une chose, c'est que justement, quand on manifeste cette foi-là vis-à-vis de ce que Dieu nous dit, il fait naître en nous quelque chose. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Donc même si tu ne le connais pas encore aujourd'hui, mais si dans ton cœur, tu es secoué, ne le prends pas mal. Dis-toi simplement que Dieu est en train de te parler, il est en train de t'appeler, il est en train de t'inviter et accepter son Fils comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et il te dit, cette tristesse que tu peux éprouver peut-être ce matin, c'est une bonne tristesse, elle est selon Dieu, pour t'amener à la repentance, c'est-à-dire à tourner le dos à ta vie actuelle, pour dire, Seigneur, je vais désormais embrasser la vie que tu veux me donner dans ton Fils. C'est pour cette raison qu'il dit que bien évidemment cette repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean. Pourquoi est-ce que ? Parce que Dieu a voulu que Jésus soit celui par qui nous pouvons être réconciliés. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. C'est un texte qui est très bien connu. Dieu a tellement aimé le monde. Alors, mon ami, si tu es là parmi nous ce matin, sache que tu fais partie du monde comme chacun d'entre nous. Dieu t'a tellement aimé. Dieu te cherche. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner la vie. Et il dit qu'il a envoyé son Fils pour toi aussi, afin que tu ne périsses pas, mais qu'en lui tu aies la vie éternelle. Parce que ce n'est pas le temps du jugement, c'est le temps où Dieu, justement, t'accorde cette grâce pour que tu parviennes au salut. Afin que toi aussi tu puisses être un homme ou une femme passionné de ce Dieu, assoiffé de ce Dieu, qui a besoin de ce Dieu en permanence, qui veut vivre pour ce Dieu. Alors, si tu n'es pas encore dans cette alliance avec Dieu, le Seigneur te demande ce matin d'ouvrir ton cœur et de faire cette alliance. Une chose qui peut aussi bloquer notre soif, qui peut empêcher, qui peut refroidir notre soif de Dieu, c'est une vie de routine, une vie religieuse. Et nous lisons dans le texte d'Apocalypse 2, c'est Jésus qui s'adresse à travers l'apôtre Jean aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Il dit, oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enleverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire à ces chrétiens, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une question de péché, il n'y a pas de péché dans l'église, il n'y a pas quelque chose que je vous reproche dans l'église. Mais il dit, mais il y a un problème que j'ai identifié, c'est que vous vous êtes refroidis. Il n'y a plus l'étincelle de nos fiançailles. Il n'y a plus le premier amour, l'amour dont je venais de témoigner ici à travers le témoignage, bien sûr, de John Bever qui disait, lorsqu'il était avec sa fiancée, il était capable de parcourir toute la ville pour chercher une glace à 3h du matin, rien que pour lui faire plaisir. Dieu dit, je veux que vous reveniez à cela. Parce qu'une vie de routine, c'est une vie d'autosatisfaction. C'est une vie où on se dit, mais voici, on s'autosatisfait dans l'organisation de l'Église. On se dit, c'est cela la vie chrétienne. Dieu dit, non, revenez à votre premier amour. L'amour qui faisait que quand tu venais au culte, tu n'avais même pas besoin de savoir si tu vas rencontrer Ulrich qui va encore te dire n'importe quoi. Non, ce qui t'intéressait, c'était de venir dans la présence de Dieu. Ce qui t'intéressait, c'était de venir prier. Et là, Dieu te dit, je ne vois plus ça en toi. Tu viens maintenant par habitude. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus de feu. Peuple de Dieu, est-ce que nous allons nous réveiller ce matin? Est-ce que nous allons revenir chacun à notre premier amour pour dire, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la routine. Je ne veux pas dire que j'en ai assez vu avec toi. Je veux encore voir les choses parce que je suis à ton école jusqu'à ce que tu reviennes, si je suis encore sur cette terre. C'est cela, frères et sœurs. Il dit à l'Écriture d'Éphèse, c'est bon, vous avez résisté, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de problème de doctrine, mais seulement vous êtes devenus des routiniers et des routinières. Ah, finalement, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la passion. Dieu aime la passion. Un homme assoiffé, c'est un homme qui maintient toujours sa passion pour Dieu. Une femme assoiffée maintient sa passion pour Dieu. Son amour ne décline pas. Son amour est intact. Sa passion pour les choses de Dieu, elle est intacte. Sa soif pour la présence de Dieu est intacte. On ne peut pas vivre une vie en dents de scie. Non, frères et sœurs, Dieu nous dit, nous devons revenir à notre premier amour que nous avons abandonné. Cela peut être un obstacle. Cela peut être une cause de refroidissement de cette soif que nous devons avoir de Dieu. Parce que simplement, nous nous sommes installés dans une vie de routine. On vient au culte parce que c'est dimanche. Et la preuve, c'est que si on met le culte samedi, certainement personne ne viendra. Non, ce n'est pas quelque chose qui est en réflexion, c'est sorti comme ça. Il ne faut pas vous dire qu'est-ce que Daniel veut nous faire maintenant. Il veut nous faire faire le culte. Non, rassurez-vous, on est l'église évangélique, 5 rue de Bretagne. Voilà, le culte, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Vous voyez, frères et sœurs, on ne doit pas être attaché à ces choses. C'est à Dieu, notre passion, elle doit brûler pour Dieu. Notre soif, elle doit être intacte pour Dieu. Dieu nous dit attention de ne pas vivre dans une vie de routine. Attention! Parce que le danger de la vie de routine, c'est qu'il y a des pièges. Le premier piège, c'est qu'on n'est plus en vie de Dieu, on n'est plus en vie des choses de Dieu. On se contente de comment on fait. On dit, mais c'est comme ça que ça se fait. Dès qu'on ne fait plus comme ça, oula! Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi cette chaise marron est allée du côté des chaises blanches? Qui c'est qui a osé le faire? Heureusement qu'il y a Michel Papin qui s'arrange toujours après le culte pour tout remettre en ordre. Béni soit Dieu pour notre frère. Hein? Frères et sœurs, soyons passionnés de Dieu. Quand nos yeux sont fixés sur Dieu, les choses autour de nous deviennent des choses inutiles, futiles. Parce que notre passion est sur Dieu, nos yeux, ça dit que notre désir ardent, il est pour Dieu et non pas pour les choses d'abord. D'abord pour Dieu. Dieu nous dit, voilà, de revenir à notre premier amour. Ça peut être une cause de refroidissement de notre soif pour Dieu. Une autre cause de refroidissement de la soif que nous pouvons avoir pour Dieu, c'est bien évidemment, comme Guillaume l'a dit à juste titre, il y a 2 semaines maintenant, c'est cette absence de transmission. Vous savez, frères et sœurs, moi, je suis de ceux qui pensent que dans une famille, si on mange l'église à midi, si on mange l'église le soir, et si notre thé ou notre infusion du soir, c'est le pasteur, je me dis, il sera difficile pour les membres de la famille de se tourner vers le Seigneur. Parce qu'il faut savoir que nos paroles, notre attitude vis-à-vis de l'Église ont de l'importance. Ce que nous disons sur l'Église, c'est ce que nos enfants entendent. C'est ce que nous disons sur les pasteurs. Oh, les pasteurs peuvent vous permettre. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on dit sur l'Église, c'est ce que nos enfants entendent. Et est-ce que vous croyez que si vous passez votre temps à dire du mal de l'Église, est-ce que vous croyez que vous allez donner envie à vos enfants d'être passionné pour l'œuvre de Dieu, l'Église qui est l'œuvre de Dieu, d'être passionné. Mais tout de suite, ils vont dire, ah ben oui, mais moi, cette Église, tu as vu, ben, moi, vu comment mon père en parle, ben dis donc, ça ne donne pas envie. Bon, s'il vous fait, il veut vous faire plaisir, il va venir comme ça, mais après, il va disparaître. Dieu a le souci de la transmission. J'ai pris un texte comme ça, Guillaume en a parlé clairement il y a 2 semaines, le texte de Joël, où il est question, où Dieu dit, écoutez ceci. Anciens, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Il y a un devoir de transmission. Il y a un devoir de transmission dans la connaissance de la parole. Il y a un devoir de transmission dans le désir de prier. Ne soyons pas étonnés que parfois nos enfants n'aient pas envie de méditer la parole de Dieu, n'aient pas envie de prier. C'est notre responsabilité à nous. C'est à nous de leur transmettre ces choses. Et ça peut être une cause aussi de refroidissement. Parce qu'on n'a pas eu cet héritage. Parce qu'on est comme dépouillé. On n'a pas les instruments pour vivre notre vie chrétienne. Et là, on est déboussolé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment faire. Et là, il n'y a pas de soif de Dieu dans notre cœur. Parce que, voilà, ces choses, nous devons les transmettre. Nous avons la facilité en tant qu'être humain de transmettre les choses négatives, de dire les choses négatives. Oh, moi, le premier, je peux reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas au top. Mais pourquoi sommes-nous si souvent promptes à parler des choses qui ne sont pas bonnes plutôt que de celles qui sont bonnes? Quelquefois, il y en a 95 des choses qui sont bonnes. Mais on veut toujours s'attarder sur les 5% qui sont mauvaises. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Si nous sommes assoiffés de Dieu, nous allons être assoiffés de sa parole. Nous allons être assoiffés de la prière. La prière ne doit plus être un problème. La parole de Dieu ne doit plus être un problème. On va dégager du temps. Comme la Bible nous dit, on va racheter le temps, comme l'apôtre Paul le dit. On va racheter le temps. On va se dire, mais oui, parce que j'aime Dieu. Je suis assoiffé de Dieu. Mais je vais aimer sa parole parce que j'ai besoin de savoir ce que lui me dit dans sa parole. J'ai besoin, c'est un besoin. Non, il y a une soif de la parole de Dieu. Quand on est assoiffé de Dieu, on est assoiffé de la parole de Dieu. On est assoiffé aussi de transmettre, frères et sœurs. On ne peut pas le garder comme si on était dépositaire pour dire, ça y est, maintenant le dépôt est en toi, c'est fini. Non, on est là pour transmettre. C'est pour cette raison que Jésus, quand il est venu, qu'a-t-il fait? Il a choisi des disciples pour transmettre ce que le Père lui avait donné comme message, afin qu'eux aussi transmettent. Et au fur et à mesure, nous sommes les héritiers de la transmission. C'est cela, frères et sœurs. Imaginez-vous si Jésus n'avait pas eu des disciples et qu'il serait retourné au ciel. Que serions-nous aujourd'hui? Nous ne serions peut-être même pas. Puisque la Bible dit que comment les gens peuvent se tourner vers Dieu s'ils n'ont pas entendu parler de lui, s'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile du salut. Frères et sœurs, ayons un discours positif sur l'Église pendant nos repas, parce que je sais que c'est là que ça fuse. C'est là que ça va vite. Si vous voyez que, au bout du deuxième verre, vous avez envie de manger du pasteur, ne prenez pas le deuxième verre. Restez-en au premier. Nous savons aussi que cette soif de Dieu peut être refroidie aussi par les épreuves. Quand on passe par des moments difficiles, le réflexe humain qu'on a, c'est en général de renoncer parce qu'on est découragé, parce qu'on n'a peut-être pas obtenu ce qu'on attendait de Dieu. Ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri de cela. Et là, vous connaissez, je prends deux histoires, eux, au contraire, n'ont pas été découragés. Ils ont lutté avec Dieu. Mais si j'ai pris ces situations, c'est pour montrer que ce sont des situations qui étaient sujettes au découragement, au refroidissement. Mais plutôt que d'engendrer cet effet chez les personnes que nous allons maintenant regarder, elles ont engendré encore une soif beaucoup plus grande. On connaît tous la vie de Joseph. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et quand on lit ce texte, on a l'impression, ah oui, Joseph c'était quelqu'un qui était pépère, il avait une belle vie, il avait un chalet, il avait une grande maison, il avait tout ce qu'il fallait. Non, quand on parle de Joseph là-dedans, il est question d'un jeune homme qui a été arraché de sa famille à l'âge de 17 ans, qui a été vendu par jalousie à ses frères, à des commerçants qui étaient de passage, qui allaient en Égypte. Et comme si cela ne suffisait pas, parce que Joseph ne devait pas les intéresser à ces Ismaélites, mais ils l'ont vendu à Potiphar. Ils l'ont vendu à Potiphar. Et pendant 13 ans de sa vie, Joseph a galéré. Joseph n'a pas baissé les bras. Il pouvait baisser les bras. Même lorsque la femme de son maître Potiphar a fixé les yeux sur lui, l'a désiré, lui a demandé de rentrer dans une compromission. Voici ce que la Bible nous dit. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Quand on lit la première partie, si les choses s'étaient arrêtées là, on se serait dit, ah oui, mais Joseph avait juste peur de son maître. Mais en fait, ce n'est pas du maître qu'il a peur. Ce n'est pas du maître. Il a beaucoup de respect pour son maître, mais ce n'est pas de lui qu'il a peur. Ce n'est pas de lui qu'il a la crainte. Révérentielle, bien évidemment. Il dit, mais non, mais si je fais ça avec cette femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commettre un grand mal et je vais pécher contre Dieu. Mais après tout ce qu'il a vécu, après tout, ne se serait-il pas dit, enfin, je vais prendre ma vie, je vais en profiter un peu. Enfin, quelqu'un qui me regarde, qui n'a pas envie de me liquider, de me vendre comme mes frères, ou comme les Ismaélites qui n'ont pas voulu de moi, qui m'ont vendu à Potiphar. Enfin, la femme de mon patron me regarde. Mais alors, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? Après tout ce que j'ai vécu, ma vie, elle est de galère en galère. Les rêves que Dieu m'a donnés ne s'accomplissent pas. Il n'y a rien qui se fait, c'est le contraire de ce qu'il m'a dit. Peut-être que c'est n'importe quoi, ce Dieu-là dont on m'a parlé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moi, j'en sais rien, moi. Moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est le contraire de ce qu'il m'a dit dans les songes que j'ai eus. Je n'y comprends rien. Mais Joseph dit non, parce qu'il sait que Dieu est fidèle.
Joseph a le recul, frères et sœurs. Nous avons les Bibles avec toutes les traductions que nous avons. Joseph n'avait pas de Bible. Joseph basait sa confiance à Dieu essentiellement sur les deux songes que Dieu lui avait donnés. Mais il va dire, non, je vais pécher contre Dieu, même si je dois mourir, même si je dois souffrir. Jamais je vais pécher contre Dieu. Je ne vais pas me laisser aller pour dire, je vais pécher contre Dieu, je vais tenter Dieu, je vais me venger. Me venger de qui? Non. Il ne comprenait pas forcément ce qui lui arrive du haut de ses 17, 18 ans, ou 20 ans peut-être à l'époque, quand il est chez Potiphar. Mais Joseph va rester fidèle à Dieu. Il va dire, je reste fidèle à Dieu. Pourquoi? Cette situation aurait pu refroidir Joseph en fait. Mais qu'est-ce que ça a engendré chez Joseph? Une soif encore beaucoup plus grande. Une soif beaucoup plus grande. C'est ce que je disais. En temps de déshydratation normale, on boit normalement un litre et demi d'eau par jour. Mais lorsque nous sommes face à des canicules, eh bien Joseph, sa vie c'était la canicule. Joseph, sa vie c'était la difficulté. C'était, la gastro la plus difficile qu'on peut avoir sur cette terre. Joseph, dans sa vie, c'était quoi? C'était des problèmes de déshydratation sévère. Mais lorsque nous sommes déshydratés de manière sévère, vous remarquerez que le corps n'a pas envie de dire « je ne bois pas ». La seule envie que le corps a, c'est de boire au contraire. Nos épreuves ne doivent pas nous éloigner de Dieu, frères et sœurs. Nos épreuves doivent nous rapprocher de Dieu. Notre soif ne doit pas s'éteindre avec les épreuves. Notre soif doit rester intacte. C'est la même chose pour un roi dont Dieu a dit du bien, le roi Ézéchias. Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il a fait tout bien entièrement comme l'avait fait son aïeul David. Dieu était content de lui. Mais quelque temps plus tard, Ézéchias tombe malade. Il est atteint d'une maladie mortelle. Et là, c'est Dieu qui envoie le prophète Ésaïe annoncer à Ézéchias, il faut qu'il mette tout en ordre parce que c'en est fini pour lui. C'est le moment d'aller dans la gloire. Et vous savez ce qu'Ézéchias va faire? Dès qu'Ésaïe sort, quitte sa présence, il se tourne le front contre le mur, à genoux devant Dieu. Il dit à Dieu, il plaide sa cause devant Dieu. Il plaide. Et la Bible nous dit, nous n'allons pas le lire parce que ça fait de longues lectures, la Bible nous dit que Dieu va dire à Ésaïe, alors qu'Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale, il dit, Ésaïe retourne. Il vient de se passer quelque chose, ce gars-là, il est trop fort. Il s'est plaidé. Il m'a convaincu. Je vais rajouter 15 années à sa vie. Cette situation, Ézéchias n'avait pas commis de péché. Au contraire, Dieu dit qu'il faisait tout bien. Mais pourtant, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même être malade. Et quelquefois, dans notre pensée, si quelqu'un a des difficultés, c'est parce qu'il a péché. Hein, on est un peu comme les amis de Job. Job, dis-nous la vérité, arrête. Tu nous mens là. Tu as fait quelque chose de pas bien. Oui, frères et sœurs, c'est sûr que à cause du péché, il peut y avoir des conséquences. Mais faisons attention de ne pas mettre le péché là où il n'y est pas. Bien, ce qui suit, c'est que on peut aussi être des situations en tant qu'Église qui peuvent nous refroidir. Quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, on voit toute la persécution que l'Église primitive a subie. Elle aurait pu refroidir l'Église. Mais paradoxalement, la Bible nous dit que plus ils étaient persécutés, c'est comme s'ils avaient plus soif de Dieu. Et l'Église croissait de plus en plus, elle augmentait en nombre. C'est extraordinaire ça, vu tout ce qu'ils ont vécu. Une vie de péché aussi peut nous éloigner de la présence de Dieu. Et c'est ce que David exprime dans le psaume 51, lorsqu'il a fait tuer Uri au combat pour prendre sa femme Bathsheba. Il savait qu'avec l'action, les actions qu'il avait commises, il y a quelque chose qui s'était passé dans son cœur et cette soif qu'il avait de Dieu n'était plus. Et c'est ce que David va dire, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. La joie, c'est ce qui nous donne d'être assoiffés de Dieu. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il n'avait plus envie de rien. Il n'y avait plus de soif de Dieu à cause du péché. Nous connaissons aussi l'histoire du fils prodigue. Il a pris, il a demandé à son père tout ce qu'il voulait. Il est parti faire sa vie. Et quand il avait tout perdu, tout dilapidé, la Bible nous dit qu'il a réfléchi, il est rentré dedans de lui-même. Quand il est revenu, le père l'a attendu comment ? Avec passion. Et la passion est née de nouveau chez ce jeune homme qui était parti loin de son père. Pour conclure, un manque d'intimité, de relation avec Dieu peut nuire à notre soif que nous pouvons avoir de Dieu. Ne croyons pas que ce sont des choses qui sont acquises, frères et sœurs. Ce sont des choses qui doivent... La soif se cultive. Elle se cultive, la soif. Et je veux terminer avec ce verset que je vais lire avec vous. Dans Éphésiens 5. C'était celui, voilà, merci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Frères et sœurs, nous devons être attachés à Dieu. Si nous voulons que cette soif de Dieu, cette passion de Dieu demeure, nous devons être attachés à notre Seigneur. Nous devons tout faire pour que nous soyons attachés à lui, que nous soyons conduits par l'Esprit, que nous nous entretenions toujours. Quand on dit des louanges, là, c'est en louant Dieu. Cette passion, elle est entretenue. Cette soif, elle est entretenue. Frères et sœurs, c'est à nous que revient cette responsabilité d'entretenir notre soif, la soif que nous devons avoir de notre Dieu. Que son nom soit béni.